Radio Kapi.
Oh, Kapi.
Le journal Passion Singalula Mbombo Banangé.
À la une de cette session d'information, pénurie du carburant à Kinshasa. C'est lundi 6 mai. Des longues files de véhicules ont été perceptibles dans beaucoup de stations-service. Les usagers de la route qui éprouvent d'énormes difficultés pour s'approvisionner en carburant appellent les autorités à apporter une réponse appropriée pour décanter cette situation. Un calme relatif est observé dans la matinée de ce lundi dans la cité de Minova et Bweremana au sud de Masisi au nord Kivu après d'intenses affrontements à l'arme lourde le week-end. Nos sources dans la région affirment que les groupes armés locaux appuyés par les FRDC en provenance du sud Kivu ont permis d'éloigner les affrontements de Minova et Bweremana. L'invitée de ce journal est Linda Boulesso, coordinatrice de l'Union des femmes domestiques du Congo à Beni. Elle revient sur les mécanismes mis en place par sa structure en collaboration avec la division du genre pour lutter contre les violences basées sur les genres et canaliser les plaintes des femmes des ménages victimes de traitements dégradants. Bonsoir. À Kinshasa, il s'observe depuis quelques jours une pénurie de carburant dans beaucoup de stations-service. C'est lundi 6 mai. Des longues files de véhicules ont été visibles dans les stations telles que les stations Total Energy, Kobil et Sona Hydrock. Les usagers de la route qui éprouvent d'énormes difficultés pour s'approvisionner en carburant en appellent à une réponse idoine des autorités. Les détails dans ce reportage de Murphy Fika, Alphan Poissa et Elvie Kunga.
Il est 11h passé, nous sommes sur première rue limitée à la station de service Sona Hydrock. Des longues files de véhicules en attente d'être approvisionnés en carburant. La seule pompe encore en service est entourée par les chauffeurs de toutes catégories qui se bousculent pour avoir cette précieuse liquide. Kemi Mukendi, moto-taximène rencontré sur les lieux, déplore cette situation.
Je suis à la station service depuis 4h du matin. Je ne suis pas encore servi. Les pompistes nous demandent l'argent avant d'être servis pour des raisons que nous ignorons. Il n'y a pas un prix fixe, tantôt 4000 francs, tantôt 5000 francs congolais.
La même situation est observée à la station de service Total Energy de l'avenue Lukusa dans la commune de la Gombe. Par contre, chez Kobil de l'avenue de la Justice, il n'y a aucun véhicule. Les pompistes nous ont fait savoir qu'il n'y a pas de carburant. Les usagers de la route ne savent plus à quel sens s'est voué en appel à l'implication des autorités congolaises.
Est-ce que les autorités sont vraiment au courant de cette situation? Que le ministre des hydrocarbures s'implique personnellement, car nous souffrons beaucoup.
En attendant la réponse du gouvernement congolais, les chauffeurs des taxis et taxibus doivent garder leur mal en patience.
De son côté, le ministre des Hydrocarbures, Didier Boudimbou, tout en reconnaissant la dette pétrolière, affirme que le problème actuel est plutôt logistique suite à la modification des horaires de travail de la CEP qui ne livre plus les carburants la nuit et en week-end. Il rassure que la situation va revenir à la normale sous peu. Le ministre Didier Boudimbou est joint par Cynthia Bachizina Bizana.
Je pense que la direction de CEP, ils ont eu à prendre une décision pour annuler les livraisons au niveau des stations de nuit et le week-end. C'est comme ça que, comme ce week-end, ces stations n'ont pas été ravitaillées, ni les nuits précédentes. C'est ça qui a causé ce petit chaos-là à Kinshasa et à Matadi. Mais j'ai dû donner des instructions claires à CEP pour qu'ils puissent répondre aux livraisons de nuit et des week-ends. Donc déjà cette nuit, la nuit de lundi à mardi, il y aura des livraisons et je pense que d'ici demain, la situation sera plus ou moins stable.
CEP a décidé d'adapter ses horaires malgré les 2 millions que vous avez déjà versés à CEP, chose que vous aviez dite il y a déjà quelques semaines.
Tout à fait. Et comme je vous l'avais dit, CEP a effectivement, ils ont accusé réception qu'ils ont déjà reçu les 2 millions. Mais comme eux voulaient qu'on puisse rajouter les 3 millions, c'est cette chose qui sera peut-être faite cette semaine. Ils ont anticipé, mais négativement. Voir comment la population est en train de souffrir, c'est quelque chose qu'on ne peut pas accepter. Donc j'ai dû demander à CEP de pouvoir revoir sa décision et de pouvoir répondre les services de nuit et les services de week-end. Par rapport à ce que les pétroliers, quand ils parlent de paiement des manques à gagner, il y a une réunion qui est prévue ce mercredi parce que nous devons voir avec les banquiers dans quelles mesures nous pouvons faire pour pouvoir enlever les fonds nécessaires pour pouvoir régler les manques à gagner au niveau des pétroliers.
Dans la province du Haut-Katanga, de nombreux villages du territoire des Kasenga ont été victimes des inondations. Plusieurs champs ont été aussi touchés. Conséquence, la société civile locale redoute la famine car la plupart des ménages vivent de l'agriculture. Pour cela, elle demande l'intervention de l'État ou des humanitaires en faveur des sinistrés. D'autres détails avec Banza Mijibu, responsable de la société civile des Kachobwe, joint par Jean Gandou.
Nous avons connu des inondations dans tous les territoires de Kasenga. Nous avons presque 322 maisons écroulées. Les gens sont accueillis dans des familles. Avec cet état-là, il y a problème de nourriture puisque les champs sont inondés. Dans les mois à venir, nous allons assister à une pénurie de la nourriture. Même l'économie sera compliquée. Aussi, nous demandons aux gens de bonne foi prendre en charge les victimes de champs et de maisons écroulées. Et aussi, nous demandons aux humanitaires de venir en aide à cette population. Même le pont qui relie route Kilwa au niveau du village Lupembe s'est cassé et aussi le village Mukobe. Ce sont des villages-là aussi qui nous aidaient. Il y a d'autres produits qui venaient ailleurs pour entrer à Kachobo ou bien dans nos coins. Maintenant, c'est coupé, il n'y a pas de communication. C'est une grande souffrance.
Au nord Kivu, la cité de Minova et Bwerimana au sud de Masisi ont connu un calme relatif ce lundi dans la matinée après d'intenses affrontements à l'arme lourde tous les week-ends. Ces combats ont opposé les FRDC et les Wazalendo contre les rebelles du M23. Des sources concordantes affirment que les Wazalendo ont réussi à repousser les rebelles de la colline Bitonga et Muyaga jusque dans les hauteurs de Murambi, dans le groupement Mufunishanga. Cependant, la population continue à fuir toute la région ce lundi, craignant une éventuelle représaille, mais aussi des bombardements. Sifa Maguru.
Nos sources dans la région affirment que les groupes armés locaux, mais aussi des renforts des FARDC en provenance du Sud Kivu, ont permis d'éloigner les affrontements de Minova et Bweremana. Pour l'instant, la cité de Minova est à l'abri de la menace de l'avancée des rebelles, déclarent les acteurs locaux. Par ailleurs, une psychose a été observée hier soir à Bweremana à la suite d'un échange de tirs entre des éléments incontrôlés des Wazalendo et des FARDC. Ces troubles ont occasionné la mort d'un militaire FARDC et deux civils habitants de Bweremana. Les auteurs de ces troubles sont déjà aux arrêts à Minova, indiquent nos sources. En outre, des mouvements des populations continuent à s'observer dans cette région ce lundi. Les habitants continuent à fuir les villages Bitonga, Kashenda, Kabalekasha, Nyamatovu et Bweremana. Pareil pour les habitants des collines surplombant la paroisse de Bobandana. Ce dernier vit de les lieux, craignant des représailles de la part des rebelles, mais aussi les échanges de tirs à l'arme lourde entre les deux forces. Goma, Sifa Maguru, Radio Okapi.
Pendant ces temps, au sud Kivu, la présence des déplacés du nord Kivu à Kalehe centre déstabilise les paniers de la ménagère dans des familles d'accueil. Les prix des denrées alimentaires galopent. En même temps, Kalehe centre se trouve isolé du reste des entités du nord Kivu suite au contexte sécuritaire qui prévaut sur la route nationale numéro 2. Jean Kassami.
L'occupation de certaines agglomérations du territoire de Masisi au nord Kivu, à la limite avec le sud Kivu, par le M23 impacte négativement les échanges commerciaux entre les deux entités. Les déplacés internes venus du nord Kivu sont hébergés dans des familles d'accueil dont les transactions commerciales constituent l'unique source de revenus. Le président de la société civile de Kalehe redoute les pires au cas où les mouvements des déplacés se poursuivaient. Martin Gognosi Kassole.
Les gens de Kalehe Centre, les gens de Mbidinga Nord, les gens de Nyamukubi, ces axes-là, se déplacent pour faire le commerce. Mais depuis qu'il n'y a pas l'accessibilité, les commerçants, ils ont haussé les prix des denrées alimentaires et d'autres accessoires.
Les marchands ambulants se réservent de fréquenter la RN2 sur l'axe Kalehe Centre Minova au risque de leur vie. Jean Kassami, Bukavu, Radio Okapi.
Et puis, bombardement du camp des déplacés de Lushagala à Goma au nord Kivu, la SADC condamne fermement cet acte qu'elle attribue aux rebelles du M23. Pour cela, elle annonce pour très bientôt des opérations de grande envergure, des opérations conjointes avec le FRDC pour neutraliser ces rebelles et ramener la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Chris Mukand.
Dans un communiqué rendu public le dimanche 5 mai 2024, la communauté de développement de l'Afrique australe dit condamner fermement les horribles attaques perpétrées par les rebelles du M23 contre les personnes déplacées à Mugunga, au Nord Kivu, le 3 mai 2024, tout en désignant ouvertement le M23 comme auteur et responsable du drame du camp de Lushagala. La SADC donne un bilan de 16 morts avec une trentaine de blessés, tous des civils. Il s'agit d'un ciblage délibéré d'innocents civils en violation flagrante du droit international humanitaire, des lois relatives aux droits de l'homme et de ses principes, ajoute le communiqué. En conséquence, des opérations militaires sont envisagées en vue de neutraliser ces rebelles du M23. Elles se feront en coopération avec les forces armées de la République démocratique du Congo et auront d'autre part comme objectif ramener la paix et la sécurité en créant un environnement sécurisé et en protégeant les civils et leurs propriétés sous des menaces ou des attaques imminentes. Autre objectif de ces opérations conjointes, ouvrir les routes d'approvisionnement et veiller à ce que les civils soient à l'abri de toute intimidation, déplacement et meurtre, afin que les communautés puissent mener leur vie quotidienne sans aucune interférence ni menace, conclut le communiqué de la SADC. Goma, Chris Mukande, Radio Kapi.
Pour sa part, l'Union africaine condamne les bombardements meurtriers contre des camps de déplacés au lac Vert et à Mugunga, ayant entraîné des morts et des blessés graves, dont des femmes et des enfants, dans la périphérie de Goma, au Nord Kivu. Dans un communiqué publié hier dimanche, le président de la Commission de l'Union africaine, Moussa Faki Mahamat, présente ses condoléances les plus attristées aux familles des victimes, au gouvernement et au peuple congolais. Il déplore profondément l'escalade continue de la violence sous toutes ses formes à l'est de la RDC. Ces hauts cadres rappellent que de telles violences vont à l'encontre de l'esprit et la lettre des accords de Luanda du 21 mars 2024 appelant au cessez-le-feu complet et immédiat. Enfin, Moussa Faki Mahamat réaffirme son soutien au processus de Luanda et de Nairobi dans la quête des voies et des moyens d'une paix durable dans l'est de la RDC ainsi que dans toute la région de Grand Lac. Examen d'État édition 2023-2024, le calendrier scolaire de cet exercice a été respecté. Les épreuves hors session de l'examen d'État ont débuté ce lundi 6 mai 2024. C'est sur toute l'étendue du territoire national et dans les écoles consulaires se trouvant à l'extérieur du pays. Pour Kinshasa, les reporters de votre radio ont rencontré les élèves des différentes écoles. En voici les explications pour ceux ou celles qui ont passé ces épreuves pour la toute première fois. Reportage de Elvi Kungé, Alpha Mpoissa et Babel Mpongo.
À la fin des épreuves de la dissertation, certains élèves estiment que c'était facile, avec des thèmes abordables et espèrent à une réussite totale.
Oui, ça a été. C'était sur l'éducation qui est en train de prôner la créativité. J'ai d'abord commencé par expliquer l'éducation et donner son importance et son apport dans la créativité. Et voilà, j'ai donné des exemples, j'ai donné des personnes qui sont passées par l'éducation pour faire ressortir leur créativité.
Pour d'autres, cela n'a pas été facile aujourd'hui pour une première fois. Le stress était au rendez-vous. Malgré cela, ils se sont quand même débrouillés.
Je réponds au nom de l'élève Ngengome Sokiangebeni. Le sujet était « On ne peut pas être heureux sans une famille. La famille est la base, donc la famille est sacrée. » À la base, ça n'a pas été facile. Il y avait le stress qui était au rendez-vous, mais grâce à Dieu, on s'est bien débrouillé. Tout le monde espère toujours une réussite et non un échec.
Pour le ministre des tutelles Tony Mwamba, les épreuves hors session doivent être comprises comme une évaluation des connaissances et des compétences acquises par tous les apprenants depuis les cycles préscolaires jusqu'à la fin du cycle des humanités et souhaite à ce que les résultats qui en découleront reflètent réellement le niveau de chaque candidat.
À Ituri, tous les centres de passation des épreuves préliminaires d'examen d'État édition 2023-2024 sont opérationnels dans l'ensemble de la province éducationnelle Ituri 1. Selon l'inspecteur principal provincial, trois centres affectés par les conflits armés dans les territoires de Djougou et Irumu ont été délocalisés à Bounia. Plus de 15 800 élèves finalistes du secondaire, dont 8 000 filles, sont attendus. Martial Kizabiamungu.
Au total, 49 centres de passation des épreuves préliminaires des examens d'État, dont un à Kampala en Ouganda, sont opérationnels dans l'ensemble de la province éducationnelle Ituri 1. Selon Ferdinand Bofenda, l'inspecteur principal provincial, des centaines de finalistes des centres d'Irumu Bar 01, Irumu 2 Bar 02 et de Djougou Denizi ont effectué le déplacement à Bounia pour participer à ces épreuves comme les autres. Cela suite à l'activisme des groupes armés dans les territoires de Djougouali-Touré. Il rassure que des dispositions sécuritaires ont été prises par les autorités pour que ces examens se déroulent dans des bonnes conditions dans plusieurs entités éloignées dans les grands centres commerciaux.
Nous les demandons du calme, d'être serein, de ne pas paniquer parce que la sécurité est assurée par son excellence monsieur le gouverneur militaire.
Le vice-gouverneur des provinces qui a procédé au lancement de ces examens encourage les candidats à braver la peur pour réussir à ces épreuves. Cette première journée est consacrée à la dissertation et rédaction. Bounia, Martial Kizabiamongou, Radio Okapi.
Actualité internationale. Un rapport sur l'incendie d'un immeuble qui a tué 76 personnes en Afrique du Sud l'année dernière a conclu que les autorités de la ville devraient être tenues pour responsables parce qu'elles étaient au courant des graves problèmes de sécurité dans l'immeuble d'appartement délabré au moins 4 ans avant l'incendie. L'incendie nocturne de l'immeuble de 5 étages situé dans le centre de Johannesburg le 31 août a été l'une des pires catastrophes qui ait connu l'Afrique du Sud. Au moins 12 enfants figurent parmi les morts et 86 autres personnes ont été blessées, certaines ayant dû sauter par les fenêtres pour échapper aux flammes.
L'invité.
Comment lutter contre les violences basées sur les genres et canaliser les plaintes des femmes de ménage victimes des traitements dégradants? Tels ont été les sujets au cœur des échanges entre les femmes de ménage et les structures étatiques chargées de résoudre ces problèmes. Des intervenants issus de la sous-division du genre et la sous-division de la prévoyance sociale de Béni ont exposé les voies à suivre pour que les personnes lésées soient remises dans leurs droits et que les employeurs de ces femmes de ménage les traitent avec équité et humanité. Linda Boulesso, coordinatrice de l'Union des femmes domestiques du Congo à Béni, s'entretient avec Blaise Makassi.
Bonjour madame, Linda Boulesso.
Bonjour.
Pourquoi avoir organisé cette formation sur le dialogue pour permettre aux femmes des ménages d'écouter les personnalités qui ont exposé sur différents sujets?
C'était une journée de réflexion où nos membres ont été enrichis sur différentes thématiques, notamment les VBG dans le secteur informel, les droits dans le secteur informel, la sécurité et santé au travail dans le secteur informel. Tous ces sujets-là ont trait sur leur vie de travail et ça va leur faciliter de comprendre que ce sont des travailleurs et ils doivent prendre à cœur le métier qu'ils font.
D'où vous est venue cette idée de réunir les femmes de ménage pour permettre à ce que vous puissiez contribuer à la promotion de leurs droits?
Alors l'idée nous est venue de par le plaintes ou bien le problème dont nos membres sont victimes. Et on a jugé bon de les mettre, si ce n'est pas en confrontation, mais ensemble avec les employés, afin qu'ils puissent s'exprimer. Et qu'on puisse essayer de voir si on peut trouver des pistes et des solutions parce que nous étions avec les services étatiques habilités en la matière. Et de par cette journée, nous savons qu'il y aura des actions qui seront prises à tous les niveaux, au niveau des travailleurs domestiques et même ceux qui travaillent dans les secteurs, dans les boutiques commerciales. Mais aussi, les services étatiques aussi ont compris leur part. Ils ont un mot à dire, ils ont quelque chose à faire pour que la vie des travailleurs domestiques ou bien la vie de tout travailleur dans le secteur informel soit normalisée.
Et quelles sont les principales plaintes que vous recevez au sein de votre association en ce qui concerne les différentes difficultés que traversent les femmes de ménage?
La plupart de nos membres se plaignent d'abord des salaires qui n'est pas décent, qui ne couvre pas tous les besoins. Mais à cela, on a des pistes, des solutions. On essaie de les faire montrer que l'économie, chaque personne doit faire tout pour que son économie, bien pour que ce qu'il gagne contribue à couvrir toutes ses charges. Alors à cela, il y a des séances qu'on fait avec eux pour leur faire voir comment épargner, comment mettre de côté quelque chose. Et à part cette question-là des salaires non décents, il y a aussi le manque de contrats ou bien le non-respect des clauses de contrat. Récemment, j'ai recueilli une femme qui a dit qu'il travaillait chez X personnes pendant 3 mois avec un contrat verbal. Malheureusement, un contrat verbal selon lequel la personne aura droit à une somme quelconque d'argent. Au début, ils ont énuméré les tâches que l'employeur doit faire. Et après les 3 mois, l'employé a ajouté d'autres tâches. Sans même une compensation ou bien ajout d'une petite somme par rapport à ces tâches-là. Mais après les 3 mois, alors pour la personne, pour notre membre, c'était vraiment un calvaire parce que de par les contrats initiaux, les travailleurs trouvaient faire d'autres courses arrière, d'autres travaux, petits travaux pour compléter les mois. Alors, mais avec l'ajout de ces tâches-là, il n'y avait plus moyen à ce que les travaux à côté qui l'aidaient à subvenir ou bien à couvrir toutes ces charges mensuelles, ils ne pouvaient plus faire ça. Mais aussi, on peut ajouter à cela, il y a quelques cas de violence basé sur les genres qui sont signalés de part et d'autre. Et on fait tout pour les accompagner ou bien les orienter vers les structures habilitées pour la prise en charge.
Quelle est la vision de cette structure pour l'émergence de la femme de Béni?
Alors notre vision, c'est de voir nos membres épanouis, le voir aussi accepter leur travail et le prendre à cœur, le voir aussi offrir des services qui sont vraiment de qualité aux employeurs et qui peut-être et aussi arrivent à nouer les deux bouts du mois sans beaucoup plus de difficultés. Donc c'est ça notre vision, voir nos membres épanouis et qu'ils aient un contrat, qu'ils aient un salaire qui leur permette de couvrir les deux bouts du mois.
Madame Sadiki, merci.
Merci.
Et c'est par ici que nous mettons un point final à cette session d'actualité sur Radio Okapi. Mise en onde pour vous par Jean-Noël Mokondo sous la supervision et coordination de Richard Junior Kamunga. Patience Ngalula Mbombo vous l'a présenté. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi et bonsoir chez vous.